Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1, ma mission, vous la connaissez. Chaque midi, vous montrez que oui, la France a du talent et qu'il suffit tout simplement de regarder autour de nous pour s'en apercevoir. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la maladie cœliaque. Gros plan sur ceux et celles qui innovent pour aider ceux qui sont intolérants au gluten. Elle fait des desserts comme à la maison depuis 1995. Marie Morin est-elle l'entreprise qui va bien? Merci aujourd'hui. Et puis apprendre aux enfants à gérer l'argent de poche, c'est la solution. Pixpay permet aux parents aussi de garder malgré tout l'œil ouvert sur les comptes. C'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
3921, vous pouvez évidemment composer dès à présent le numéro du standard d'Europe 1 pour être avec nous, Anissa, en direct ou nous laisser un message d'ailleurs, parce que c'est aujourd'hui aux acteurs du sans gluten que nous allons nous intéresser.
Oui, venez nous dire, peut-être que vous êtes intolérant au gluten, venez nous dire à quoi ressemble votre quotidien, comment vous choisissez vos produits. Si vous avez des questions à poser aux invités de Raphaël Duchemin, c'est maintenant 3921, 50 centimes la minute. Et puis Twitter, on lit tous vos messages, toutes vos réactions, vos questions avec le hashtag Europe 1.
Ah oui, c'est la journée mondiale de la maladie cœliaque. De plus en plus de Français développent des intolérances ou des allergies au gluten. D'autres le suppriment aussi par choix, hein, tout simplement de leur alimentation. Résultat, des Français ont choisi de se positionner sur ce marché. Ils sont avec nous aujourd'hui pour les accueillir. Comme chaque jour, elle est là à mes côtés. C'est Elisabeth Assayag. Bonjour.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous.
Et notre coach, évidemment, c'est Guillaume Gibault aujourd'hui, fondateur du Slip Français. Bonjour Guillaume.
Bonjour à tous.
Le plus difficile quand on s'aperçoit qu'on est allergique ou intolérant, c'est de savoir où trouver les produits sans prendre de risques. Et ça peut être, on va le voir, un véritable parcours du combattant. Bonjour Nathalie Templier.
Bonjour Raphaël.
Merci
bonjour à
tous d'être avec nous sur Europe 1. Je crois que l'aventure Madame Gaspard démarre en 2015.
Tout à fait.
Parce que vous serez d'accord avec moi pour dire que la principale difficulté quand on découvre, quand on apprend, et c'est votre cas, qu'on est allergique ou intolérant, c'est qu'il faut commencer à chercher les produits qui nous conviennent.
Oui, tout à fait. En réalité, à partir du moment où on commence un régime sans gluten, que ce soit par choix ou par contrainte, on doit remettre en question tous
toutes ces habitudes alimentaires.
Donc, réapprendre à manger, réapprendre à lire les étiquettes et réapprendre à trouver où acheter ces produits.
Les bons produits au bon endroit.
Exactement.
Alors vous découvrez que vous souffrez de cette maladie et vous ne le saviez pas.
Voilà, je l'ai découvert en 2014 que j'avais une maladie cœliaque et j'avais vécu toute ma vie sans le savoir. Je pense que j'avais déclaré la maladie 5 ou 10 ans au préalable. Donc j'ai connu la vie avec gluten et la vie sans gluten.
Comment est-ce que vous vous en apercevez?
Quelques petits symptômes et surtout une hypothyroïdie qu'on m'avait décelée, qui en fait est une maladie auto-immune. On a fait d'autres tests complémentaires qui ont prouvé que j'avais une maladie au gluten, une maladie cœliaque. Et donc j'ai dû du jour au lendemain changer mes habitudes alimentaires et trouver de nouveaux produits pour continuer à me faire plaisir au quotidien, à retrouver de la gourmandise, à me faire plaisir tous les jours.
Et ça a été compliqué de trouver
ces
produits.
Et ça a été compliqué au préalable parce que c'est vrai que tout est remis en question. Mais petit à petit, j'ai fait des découvertes intéressantes. J'ai trouvé qu'on pouvait cuisiner d'autres farines que la farine de blé. Mm-hmm. J'ai découvert qu'il y avait d'autres pains, qu'il y avait du pain de sarrasin, quinoa, des gâteaux qui pouvaient être très bons. J'ai réappris à cuisiner. J'ai trouvé de bonnes pâtes sans gluten, pâtes de riz, pâtes de maïs. Et donc, au fur et à mesure de mes découvertes, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire. Il existe des choses, c'est pas bien mis en valeur. Donc, pourquoi ne pas faire partager mes découvertes à ceux qui sont dans le besoin, oui, et qui sont dans le même cas de figure que moi.
Bien sûr.
Et en faire, finalement, faire de cette maladie un tremplin et créer, construire quelque chose pour s'amuser et puis pour partager. Quoi.
D'abord, c'est un blog et puis petit à petit, ça va devenir Madame Gaspard. Gaspard, quel est le nom de votre fils?
C'est le nom de mon fils, exactement. Mais dans le concept Madame Gaspard, l'idée, c'était de dire Madame Gaspard, c'est la dénicheuse de bons produits. Donc, c'est elle qui va aller vous trouver les produits qui vont vous faire plaisir, qui vont vous faire
Aider tout simplement
aider
aussi au quotidien
à bien manger et à retrouver du plaisir dans l'assiette. Donc derrière Madame Gaspard, il y a toutes les voilà, il y a moi, il y a mon associé, et il y a toutes les personnes qui contribuent à faire du bien au sans gluten.
Et c'est comme ça qu'arrive évidemment le e-shop, hein, voilà, le e-commerce.
On a rassemblé donc sur notre site Madame Gaspard toute une gamme de produits sans
300
gluten.
300 références, c'est ça aujourd'hui?
À peu près, oui. Et puis c'est de toute façon c'est une offre qui sans cesse évolue parce que de nouvelles marques se positionnent, les marques sortent de nouvelles références. Donc la gamme s'étoffe de jour en jour. On va trouver aussi des produits. On privilégie les circuits courts, donc on va
chercher du local.
On peut aussi chercher du local, mais on peut aller chercher des bonnes pâtes en Italie qu'on va importer directement parce que les Italiens sont les meilleurs pour faire les pâtes, même les sans gluten. Donc on va essayer de trouver le meilleur un peu partout et de privilégier les relations avec les fournisseurs.
Elisabeth, c'est important qu'on précise combien il y a de personnes, hein, aujourd'hui en France qui sont allergiques au gluten.
Alors en France, on estime à une personne sur 100 intolérante au gluten. Donc c'est aussi appelé maladie cœliaque, hein, c'est ce
Exactement.
Que vous étiez en train de nous dire. L'intolérance au gluten, ça toucherait au moins 600 000 Français. Mais c'est compliqué. D'abord, on ne connaît pas forcément la maladie. C'est difficile d'établir un réel diagnostic. C'est à travers une prise de sang que vous avez
Exactement. On fait d'abord une prise de sang pour tester le taux d'anticorps et on confirme par une biopsie.
Voilà, donc c'est pas forcément évident. Et seuls 60 000 Français sont conscients de leur intolérance.
Alors, vous avez dit intolérance, vous avez dit allergie. C'est quoi justement la différence entre les deux?
L'allergie, c'est une réponse anormale du système immunitaire à un aliment. On parle de l'immunité. Hein. Elle signifie que ce sont des anticorps qui, lorsqu'ils entrent en contact avec un allergène, donc avec le gluten... En ce qui concerne les intolérants, les allergies au gluten, ça provoque une libération de médiateurs chimiques comme l'histamine. Et donc là, après avec ça, on a des symptômes qui peuvent être très forts, hein, qui sont des vrais symptômes d'allergie. C'est l'urticaire, mais ça peut être l'œdème de Quincke. Enfin, on peut faire plein de choses. L'intolérance, elle se réfère à une réponse physiologique qui n'implique pas l'activation du système immunitaire. L'intolérance, c'est une difficulté généralement du tube digestif, hein, c'est lié à la digestion, à assimiler un aliment. Et donc, les symptômes sont en général purement digestifs lorsqu'il s'agit d'intolérance.
Le coach, Guillaume Gibault.
Le coach, il regarde forcément la page Instagram, hein, c'est ce que je regarde souvent. Vous avez démarré par le web et ça semble super logique quand on dit qu'il y a 600 000 Français un peu partout en France. Et pourtant, je vois que vous avez ouvert une boutique à Paris.
On est l'unique boutique 100% sans gluten à Paris et je crois même en France. Donc, les clients qui entrent dans cette boutique peuvent venir faire leurs courses les yeux fermés. C'est une vraie chance et un vrai plus pour eux. Ils arrivent vraiment soulagés. Ils posent leur valise. C'est bon, je peux tout acheter. J'ai une offre 100% sans gluten, mais aussi sans allergène. L'idée, c'est de retrouver, recréer un contact aussi avec les gens, pouvoir échanger, pouvoir partager ses malheurs, pouvoir partager ses bons plans et finalement contribuer à donner du plaisir aussi aux gens, à leur dire que... Oui, effectivement, c'est un problème à la base, mais ils peuvent trouver des solutions. Il y a des solutions qui existent, autant en termes de produits que de restaurants, de recettes, de façons d'adapter son quotidien à cette nouvelle façon de manger.
Une boutique, mais d'autres en préparation.
Idéalement, oui, si on pouvait, tout est concentré à Paris, donc si on pouvait aussi avoir une présence en France à travers un réseau.
En tout cas, c'est dans vos projets.
Oui, oui. Ça serait génial.
Et les box également.
Et voilà. Et on a aussi pour le côté cadeau, plaisir, et on a développé un système de box mensuel 100% sans gluten, sans allergène, qui sont entièrement personnalisables selon les intolérances et les goûts de chacun. Parce que c'est vrai que les personnes sans gluten ont souvent des intolérances croisées. Donc on est sans gluten, mais on peut aussi être sans lactose, sans œufs, sans fruits à coque. Chaque personne a un profil différent. Nos box permettent de s'adapter à chacun.
Avec
tous les mois, vous recevez 5-6 produits sans gluten et adaptés à votre régime alimentaire.
Ouais, ça intéresse Elisabeth, hein, je crois.
Oui. Moi, ça me concerne mon fils, mais voilà.
Et l'idée de faire vos propres produits, peut-être d'aller encore plus loin, faire vos recettes, vos propres gammes
J'ai lancé en parallèle une marque de préparation à gâteau qui s'appelle Cinépix. Ok. Et qui permet justement, en quelques minutes, de préparer un gâteau en rajoutant simplement les ingrédients humides. Donc vous avez une base pour un fondant au chocolat, vous rajoutez œufs et beurre, et hop, en 5 minutes, c'est prêt.
Anissa ?
Oui, j'ai une toute petite question. On entend très souvent dire que l'alimentation sans gluten est plus légère, moins calorique. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une idée reçue ?
Alors, tout dépend des produits sans gluten que vous consommez. Les produits sans gluten industriels sont souvent... ne sont pas forcément meilleurs pour la santé parce qu'ils sont souvent pleins de sucre, il y a des conservateurs. Donc on va enlever un problème et potentiellement et en rajouter un autre. En revanche, nous, dans la sélection de produits qu'on souhaite avoir et dans la gamme de produits qu'on propose, on fait très attention à avoir une liste d'ingrédients assez réduite. On fait très attention à la qualité des ingrédients qui composent le produit. On essaie, dans la mesure du possible, de connaître nos fournisseurs, de connaître leur histoire, leur philosophie et leur façon de préparer les gâteaux et les autres produits.
Et on va rester ensemble. Évidemment, on va continuer à parler de ces acteurs du sans gluten aujourd'hui en France sur Europe 1.
Il est 13h10.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
On vient de voir que faire ses courses, c'est compliqué, mais sortir au restaurant, ça l'est encore plus, car on n'est pas en cuisine, d'où l'idée d'Avec Plaisir, une plateforme collaborative qui vous sert de guide. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 avec les acteurs qui sont là parce qu'aujourd'hui on s'intéresse au marché du sans gluten. Ce marché explose, vos invités en sont les témoins et vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. Si vous êtes intolérant au gluten, venez poser vos questions au 3921, c'est le standard. Hashtag Europe 1, ça c'est pour vos messages sur Twitter, Raphaël.
Vous savez que le soir, parfois, on a envie de ne pas rester à la maison, de sortir dîner avec des amis. Sauf que quand on a une allergie au gluten ou une intolérance au gluten, tout de suite, ça devient très compliqué. Bonjour Julie Maillard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente et fondatrice d'Avec Plaisir. Je crois que vous êtes vous-même intolérante au gluten et au lactose, hein, c'est ça ?
C'est ça.
Et c'est par hasard là aussi que vous l'avez découvert ?
Alors un petit peu, j'ai été malade je pense pendant toute mon adolescence avec des symptômes digestifs mais aussi rhumatisme et j'ai été diagnostiquée au début du sans gluten parce que ma maman a été diagnostiquée en même temps et c'est parce qu'elle a fait les tests que je suis allée faire les tests.
Et alors à ce moment-là, vous êtes en train de faire vos études?
Oui.
Et vous êtes en marketing design, c'est ça? Et vous décidez de faire une présentation sur cette question des consommateurs qui ont une contrainte quand ils font leur course ou quand ils vont justement au restaurant.
C'est ça. À l'époque, j'étais étudiante, donc j'avais l'habitude de manger des pâtes. Mmh. Et comme l'a dit Nathalie, refaire ses courses du jour au lendemain, c'est très compliqué. Donc j'ai vécu la galère de devoir
regarder toutes les boîtes,
faire
les retourner.
Ses courses, changer ses habitudes. Et je me suis dit, je devais faire une thèse à la fin de mes études. Bah, pourquoi pas en fait, la faire sur l'expérience des courses pour les personnes qui ont des contraintes alimentaires, donc qu'on soit allergique, intolérant, hypersensible. C'était me dire, est-ce qu'en fait on est un consommateur différent? Est-ce qu'il y a un profil marketing, des marqueurs sociaux différents ou pas? Et donc pendant 2 ans, j'ai travaillé sur ce sujet avant de lancer Avec Plaisir. Et ça a été la base en fait.
Oui, c'est votre projet qui devient ensuite réalité puisque vous lancez cette plateforme qui est une plateforme collaborative.
Qui est une plateforme communautaire, oui, de bonnes adresses sans allergènes. Donc on va au-delà du gluten parce que moi, ma problématique, c'était de trouver des produits sans gluten, de trouver des restaurants sans gluten. À l'époque, ça commençait, donc c'était possible. Mais dès que je cherchais à manger sans lait ou sans lactose, c'était la croix et la bannière. Donc j'ai lancé ça pour justement aller plus loin que le gluten et aider les personnes qui ont des multiples intolérances.
Et puis vous avez accéléré, hein, si j'ose dire, quand vous êtes partie aux États-Unis, puisque vous êtes aperçue que là-bas non plus, il n'y avait pas forcément de liste où trouver les bons restaurants, les bons plans de sortie.
C'est ça en fait. Là-bas, l'information était un peu mieux affichée, c'était plus dans la culture. Mais en fait, je me suis dit, surtout aux États-Unis, c'est je suis jeune, je pensais que je ferais ça dans 10 ans. Et je me suis dit, non mais en fait, j'ai fait ma thèse, ça fait déjà un moment que je travaille. J'ai mon fichier Excel avec toutes mes adresses sur Paris.
Oui.
J'avais fait le même du coup à San Francisco. Et en fait, on m'a dit tout simplement, mais Julie, pourquoi tu ne le partages pas à d'autres? Et c'est parti de là. Et aujourd'hui, c'est communautaire parce que tous les consommateurs, tous nos utilisateurs nous sourcent nos bonnes adresses.
Donc, on rentre son profil, on dit voilà, bonjour, je m'appelle Raphaël, je suis allergique au gluten et au lactose. Je vis à Lille et vous allez me dire où est-ce que je peux aller manger sans risque?
C'est ça, en fait, on va avoir nos utilisateurs qui nous soumettent des adresses. Derrière, on ne va pas les mettre en ligne directement. Notre parti pris, ça va être de vérifier la qualité de l'information. Donc, on va aller diagnostiquer, je dis vraiment ça, l'établissement et le professionnel, pour voir comment est-ce qu'ils travaillent.
Avec des spécialistes.
Avec notre équipe, du coup, et avec le laboratoire Mérieux avec lequel on a noué un partenariat, notamment pour toutes les visites terrain. Donc on fait un audit hygiène allergène sur lequel ça nous permet de déterminer si l'établissement est spécialisé, par exemple sur le gluten, il n'y a pas de trace, il n'y a pas de risque de contamination. S'il propose des options, et si oui ou non il y a un risque, et quel est-il? Et sinon, s'il n'a absolument rien à son menu, mais qu'il est capable de s'adapter, dans quelle mesure?
Guillaume Gibault.
Est-ce que, j'imagine qu'il y a quand même un boulot pour arriver à créer la communauté, arriver à rentrer toutes ces adresses. Enfin, qu'il y avait un fichier Excel important, je comprends, mais est-ce que ça vous a traversé la tête de faire un partenariat avec des plateformes existantes comme La Fourchette, par exemple, des gens qui ont déjà en base beaucoup de gens, et d'essayer de qualifier l'offre pour arriver à cibler tout de suite une population beaucoup plus large?
Alors aujourd'hui, le problème, ce n'est pas l'offre, parce qu'on a beaucoup plus d'adresses qu'on est capable de les traiter. Aujourd'hui, c'est vraiment la qualification de l'information sur laquelle on travaille. Donc on a racheté Sortir sans gluten l'année passée, qui existait depuis 2010. Nous, on existe depuis 2015, on a lancé le site en 2016, pour justement aller plus vite et acquérir cette communauté, l'étendre et surtout pouvoir continuer de grandir en fusionnant notre combat et en reprenant le flambeau qu'avait commencé Sortir sans gluten.
Elisabeth, vous avez trouvé, je crois, des restaurants, des boulangeries dédiées aux personnes qui mangent justement sans gluten.
Oui, on en trouve désormais un peu partout en France, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Par exemple, à Paris, on a Noglou, ça fait 5 ans que ça c'est un restaurant qui propose apparemment une cuisine très bonne où il n'y a aucun risque pour tous les intolérants. Vous avez comme boulangerie Chambellan dans le 11e arrondissement de Paris, mais il y en a aussi... en Ardèche, à Aubenas, ça mange pas de pain, 100% sans gluten. Vous avez à Marseille, dans le 7e arrondissement, vous avez La Pépite, là aussi c'est du 100% sans gluten. Dans le 6e arrondissement de Lyon, les Gasteliers, ou encore à Chambéry et Aix-les-Bains, Mamaten, du 100%, à chaque fois c'est du 100% sans gluten. Vous en avez même une, les pains sans gluten du Mont Blanc. C'était créé en septembre 2016 et c'est une boulangerie basée en Haute-Savoie qui livre les commerces et les particuliers dans toute la France et même en Suisse. Vous parliez des États-Unis. Aux États-Unis, 60% des restaurateurs ont intégré du sans gluten à leur carte.
Aujourd'hui, on sait dire combien de restaurants en France ont intégré ce fameux sans gluten à la carte ou pas ?
Non, pas encore justement. On est en train, grâce à nos bases de données, d'avoir des data et de pouvoir faire des études là-dessus. On se rend compte par rapport au moment où j'ai lancé que le marché a accéléré. Là, depuis le début de l'année, on a fait 4 ou 5 salons professionnels. On a une demande qui est énorme, qui est croissante. Il y a 2 semaines, j'ai fait un webinar justement auprès des clients de Merieux Nutriscience pour expliquer comment faire des allergènes un atout pour leur établissement. On a eu 150 inscrits en moins de 2 semaines. Donc c'est juste pour montrer, ça concerne du McDo, du Domino's, du CAS. Ça concerne tout le monde. Tout le monde se pose la question de comment est-ce que on va traiter ces nouveaux clients et ce nouveau marché.
Guillaume, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Non, j'acquiesçais. Je trouvais que c'était très malin d'aller effectivement avoir des gens qui ont une grosse force de frappe et qui peuvent en plus faire effet mot compte double avec votre communauté. Effectivement, quand on se dit un McDo, s'ils arrivent à créer une recette qui peut fonctionner pour vous...
Ils en ont déjà ?
Ils en ont déjà.
En fait, ils font du sans gluten ?
Ils font du sans gluten en Espagne, en Italie, mais pas en France.
Il va falloir accélérer ici en France.
Le pays où ils sont le plus d'innovation.
Il faut faire bouger. On aime bien ce mot-là, nous, ici. On se retrouve dans un instant pour parler encore et toujours sans gluten.
Il est 13h19.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et le sans gluten, c'est aussi évidemment des marques françaises qui existent et qui ne font que ça. Celles de Nathan et Céliane, par exemple, développées un peu avant tout le monde, il y a 30 ans, par ABCD Nutrition. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours entre 13h et 14h. Et aujourd'hui, on passe à table et on s'intéresse au marché du sans gluten. Un marché qui explose. Raphaël, c'est la journée mondiale de la maladie cœliaque aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr réagir si vous vous sentez concerné, nous parler de votre quotidien. Hashtag Europe 1 pour vos messages sur Twitter. 3921 pour vos questions au standard.
Il y a 30 ans, c'est vrai qu'on entendait peu parler des allergies au gluten ou autres. Aujourd'hui, avec... l'arrivée dans nos vies de plats préparés de plus en plus, eh bien ces allergies se développent. Mais pourtant, vous allez voir qu'il y a des acteurs qui ont très tôt compris qu'il y avait un véritable enjeu de santé. C'est votre cas, Bruno Pierre, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous venez d'entendre avec nous raconter deux histoires, deux nouvelles pépites françaises. Mais vous, il y a 30 ans, vous avez lancé... avec ABCD Nutrition un petit peu plus tard, mais vous avez lancé des références pour la grande distribution et les réseaux spécialisés. Racontez-moi comment vient le déclic initial.
Alors le déclic, il vient d'une rencontre, comme souvent, quand on est entrepreneur, c'est hallucinant, et c'est la joie des rencontres. Quelqu'un qui a un petit-fils malade cœliaque, moi je suis passionné de développement, et je me lance dans l'aventure.
On est en 98
90. Donc on me dénomme aujourd'hui le père du sans gluten. Je ne suis pas pressé d'être le grand-père au passage. Premier à fabriquer des produits sans gluten, le premier à créer des réseaux de distribution, parce qu'à l'époque, pas de réseau de distribution, donc on vend par correspondance.
À l'époque, ça s'appelle Valpiform, c'est ça ?
Exactement. Et puis après, on est les premiers à rentrer en grande distribution, on est les premiers à faire des marques distributeurs. Et
il n'y avait aucun produit sans gluten en France.
Si, des produits d'importation, notamment la personne que je croise le matin prend du pain au petit déjeuner, du pain importé d'Angleterre et qui est en boîte de conserve. Parce qu'à l'époque, il fallait fabriquer des longues séries qui doivent se conserver. Donc vous imaginez psychologiquement le matin ouvrir sa boîte de conserve et faire réchauffer le pain. Donc je me dis, c'est pas possible, passionné de développement, et ben voilà, je me lance dans l'aventure.
Vous vous lancez, ça marche bien, mais vous êtes, c'est difficile, hein, oui c'est vrai.
Oui.
Mais vous êtes approché par un groupe et puis vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce qui va se passer. Ouais, vous partez.
Pas tout à fait, c'est-à-dire que quand je démarre à 26 ans, j'ai pas la culture forcément d'être entrepreneur. Ce que je vous dis, une plus c'est la rencontre. Deuxièmement, j'ai pas de moyens perso.
Donc je
m'associe et je suis minoritaire dans mon entreprise et donc je suis effectivement à terme racheté, ne pouvant me relever et garder le contrôle du capital. Donc quand je redémarre il y a 10 ans ABC Nutrition, on essaie de travailler autrement. Et donc j'ai tout autour de moi une équipe où on
avec
est majoritaire.
Un de vos anciens salariés.
Exactement,
qui est votre bras droit.
Christophe Fontaine qui est mon bras droit et puis un comité de direction super chouette que j'ai fait rentrer dans l'actionnariat. Donc on est 5 aujourd'hui à gérer avec un peu de fonds d'investissement à côté parce que c'est intense hein, sur le plan capitalistique. Là, on vient de monter une nouvelle usine avec 15 millions d'euros, une année de marge brute.
Vous avez deux usines, une bio avec gluten et une sans gluten, c'est ça.
On a deux usines, une qui est bio avec gluten et une qui est sans gluten, dont beaucoup de bio pour nos marques. Ouais.
Vous fabriquez vous-même tous les produits qui sont avec nous, là. Ils sont avec nous sur Europe1.fr. Alors, les marques, c'est Naten et Céliane, essentiellement, je les ai citées. Il y en a une qui est plus pour les réseaux spécialisés, l'autre un peu plus pour la grande distribution.
Exactement.
C'est
Naten
ça
est
la
grande
différence.
Distribution. Elle arrive, c'est tout nouveau, et l'export. Et puis Céliane, qui est en réseau de distribution depuis maintenant 8 ans. C'est la différence, parce qu'effectivement, en France, c'est difficile d'avoir deux marques, la même marque, pardon, sur deux réseaux. Exactement. Donc, deux marques différentes avec des concepts bio, sans gluten, sans lait et extrêmement nutritionnels. Parce que le sans gluten, il y a eu trois époques rapidement. Il y a eu une époque où il fallait trouver des sites sécurisés, parce que les sites doivent être dédiés. Hein. C'est la première création il y a 30 ans. Puis, il fallait faire des produits gourmands. Mm-hmm. Et puis maintenant, il faut les faire en plus nutritionnels. Hein. Avec toutes les complexités des applis, on n'arrête pas d'en parler, qui viennent abîmer parfois des consommateurs. Vous en avez parlé très bien au début de l'émission. On est en sous-diagnostic en France, c'est dramatique. Oui. Hein. Il y a des gens qui sont malades et qui malheureusement n'accèdent pas à l'alimentation. Et les applis, parfois, chahutent un peu le sujet parce qu'on regarde. Et comme c'est des produits effectivement gourmands dans un domaine sucré, ça peut sortir en médiocre. Il n'y a pas d'alternative et le consommateur se retrouve privé d'une alimentation qui est un sujet de santé publique. Quoi.
Guillaume,
l'histoire a l'air passionnante. Vous parlez de fonds d'investissement avec des moments plus ou moins faciles dans la vie de la boîte. Effectivement, pouvoir visiter des usines de fabrication, c'est beaucoup plus technique que ce qu'on imagine. Oui. Et c'est pas mal d'investissements importants. Comment vous conciliez? Parce que vous dites que vous avez quand même des fonds au capital. Et est-ce qu'on va voir des gens comme la BPI, aujourd'hui des entrepreneurs qui sont dans votre cas? Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil pour ne pas se retrouver dans la situation où vous avez été il y a 15 ou 20 ans?
Alors déjà souvent, parce que moi je suis dans beaucoup de cercles d'entrepreneurs où on fabrique, parce qu'on est passé dans l'ère du numérique et on a deux beaux exemples juste là, mais il y a un ère industriel avant.
Hein. Bien sûr.
Et à côté de ça, effectivement c'est intense, comme je vous ai donné quelques chiffres sur les capex de l'année. D'abord, très vite, moi j'ai partagé, c'est-à-dire que mon capital il est ouvert et donc je ne suis pas tout seul. Beaucoup d'entrepreneurs disent je suis seul et comment je partage? Il suffit de ne pas être seul et de partager. Donc ça c'est le premier sujet. Et puis après il y a les partenaires, donc les banques. Pareil, beaucoup de sujets sur les banques et vous en parlez souvent. Mm-hmm. Mais on peut aussi vivre très positivement. La BPI, vous l'avez cité, fait partie des partenaires et puis des fonds.
Aujourd'hui, vous êtes combien au sein de l'entreprise?
On est 185 et une des plus belles... Parce qu'on parle de création d'activités sans gluten, mais c'est aussi de créer de la valeur avec des créations d'emplois. Donc en 10 ans, on a créé pas loin de 200 emplois.
Donc combien sur la partie production?
Les trois quarts sur la partie production.
Génial.
Ouais.
Et vous faites 10% à l'international aujourd'hui.
Exactement.
Alors qu'au départ, nous Français, on faisait pas de sans gluten.
Exactement. Alors qu'on faisait pas de sans gluten. Et on va essayer d'aller aux États-Unis.
Ça,
on a un projet en cours.
C'est le sujet en ce moment.
Exactement. C'est un bon sujet.
Je crois savoir aussi que vous avez envie de développer le snacking parce que j'ai regardé les produits. Là, on est beaucoup sur le sucré, sur effectivement tout ce qui est gourmand, les choco-noisettes, les mini brownies, les petits muffins à la framboise, les gâteaux spéculoos. Il faut aller trouver toujours finalement de nouveaux marchés, de nouveaux produits.
Complètement. Donc l'offre salée, bien sûr, est à l'étude. Alors l'offre qui est là, bien sûr, c'est la première déclinaison du conventionnel, puisque notre R&D, notre développement produit, c'est quoi? C'est de s'imprégner des tendances agroalimentaires, brownies, vous l'avez cité, de venir y mettre une touche de nutrition. Comment on peut faire un brownie sans gluten, bio et bon et nutritionnellement intéressant, c'est-à-dire équilibré hein, sur un plan sucre, matière grasse, etc. Et à partir de là, on a le produit et vous l'avez dit, le salé arrive. Ouais.
On reste ensemble, on continue à parler sans gluten aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on vous attend bien sûr 39-21 et puis Twitter, hashtag Europe 1, c'est la France qui bouge avec vous. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 entre 13h et 14h tous les jours. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission, n'hésitez pas à poser vos questions, réagissez, témoignez. Aujourd'hui, on parle du marché du sans gluten qui est un marché qui explose avec les acteurs du secteur, Raphaël Duchemin, qui sont à vos côtés. 39-21, 50 centimes la minute hein, pour réagir. Et on vous attend.
Nathalie Templier, présidente et fondatrice de Madame Gaspard, e-shop, box et boutique 100% sans gluten est avec nous. Julie Maillard également, présidente et fondatrice d'Avec Plaisir, première plateforme communautaire pour trouver les bonnes adresses sans allergènes. Et Bruno Pierre également, président et fondateur d'ABCD Nutrition qui commercialise les marques 100% sans gluten, Naten en grande surface et Céliane en magasin spécialisé. Notre coach est là aussi, Guillaume Gibault, aujourd'hui fondateur du Slip français et bien sûr ma complice Elisabeth Assayag. On a des questions pour vous. Qu'est-ce que le gluten, pour commencer, nous demande Claudine. On n'a pas donné la définition, c'est vrai, mais on va l'expliquer. Et je voulais savoir, nous dit-elle, si les boulangers en mettent plus qu'avant, parce que je trouve le pain de plus en plus collant. Alors, qui a la réponse à la question de Claudine, aujourd'hui, qui nous appelle au 39-21 ? Qui a envie de répondre ?
Alors, je peux peut-être répondre.
Julie, on vous écoute.
Je ne suis pas scientifique, donc je ne lui apporterai pas la bonne réponse sur est-ce que le pain est de plus en plus collant. Par contre, de plus en plus de boulangers, même sur les pains naturellement sans gluten, vont enrichir leur pain en gluten, donc vont rajouter du gluten. Après, est-ce que ça rend le pain plus collant ou pas ? Ça, j'en sais rien.
Bruno Pierre.
Pour compléter, effectivement, le gluten est une industrie récente. Hein, l'extraction du gluten, c'est-à-dire qu'il y a une quarantaine d'années, des industriels sont partis du blé, ont extrait le gluten et le gluten en a été en mettre partout, hein, ce qu'on appelle le gluten exogène. Et dans les mix de boulangers, on rajoute du gluten pour gagner en fermentation, ce qui explique une grande partie des dérives aujourd'hui et des problématiques de digestion.
On a Patrick aussi qui nous a téléphoné au 39-21 au standard de repas et qui nous dit « Je mange sans gluten depuis 35 ans, je suis intolérant. Les intervenants devraient faire une liste des aliments qu'on peut manger et qu'on ne peut pas manger, donner les différents grades d'intolérance au gluten. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, qui est possible ? Peut-être Nathalie, qu'est-ce que vous en pensez ?
Il existe des listes déjà des produits interdits. Après, il faut savoir ce à quoi on est intolérant. Donc c'est au blé essentiellement. Donc il faut éliminer les biscuits, les pains, les pâtes. Ensuite, tout ce qui est à base de gluten, donc la sauce soja, le bouillon cube, les plats cuisinés, tout ce qui est trop industriel finalement peut cacher du gluten. Donc c'est surtout à cela qu'il faut faire attention.
Oui, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît.
Exactement.
Guillaume ?
Ouais, je me dis, quand vous rendez un tel service en fait, aux gens qui consomment vos produits, à qui vous donnez des solutions, est-ce qu'on parle beaucoup d'ambassadeurs, de traiter ses clients, d'interagir avec eux sur les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est une super force pour vous qui vous permet de vous faire connaître ? Et est-ce que vous arrivez à vous nourrir de ce que vous apportez à vos clients pour faire grandir vos plateformes, vos produits ? Encore plus, est-ce que c'est un truc que vous arrivez à bien capter ?
Je vais répondre,
Julie,
si vous voulez.
Oui, Julie Maillard.
Alors nous, on a mis en place un programme ambassadeur justement pour remercier et pour encourager les gens qui nous suivent, qui nous soutiennent, parce que tout notre modèle est basé sur la communauté. C'est eux qui vont aller en restaurant et qui vont découvrir, par exemple au fin fond des Cévennes, qu'on peut partir en vacances sans gluten avec ses enfants sans problème. C'est eux qui vont nous le dire, c'est eux qui vont parler aux restaurateurs de nous. Et derrière, nous, on intervient dans un contexte qui est plus facile, parce qu'ils ont déjà été en premier sensibilisés par leurs clients qui sont venus consommer chez eux. Et du coup, on peut vérifier l'information. Donc nous, on les remercie. Alors, pas en leur faisant gagner des box mensuelles, mais en leur offrant des box tous les mois pour justement remercier nos utilisateurs. Donc on fait des cadeaux régulièrement dans notre programme de fidélité.
Je crois qu'on a des messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
On en a plusieurs. Alors, il y a Sophie qui dit, vu que vous entrez dans le cadre d'une maladie, la maladie cœliaque, est-ce que vos produits pourraient être recommandés par des médecins et éventuellement considérés comme des éventuels traitements ?
Alors, traitement peut-être pas, mais recommandé, c'est déjà peut-être le cas, non ?
C'est en principe le cas, mais c'est toute la difficulté dont j'en parlais tout à l'heure du sous-diagnostic en France, hein, puisque vous avez donné des chiffres, à peine 10% des gens sont diagnostiqués, hein, qui est un problème une fois de plus de santé publique. Hein, je rappelle, on est dans le domaine de l'alimentaire, mais c'est un sujet de santé publique. Parce qu'on en a parlé très rapidement, vous avez les malades cœliaques, vous avez des gens qui ont des sensibilités. On parle effectivement de 20% de malades cœliaques, 9% de gens qui ont une sensibilité. Ceux qui ont une sensibilité, c'est effectivement de faire très attention. Pour le malade cœliaque, c'est de ne pas dépasser une certaine dose. On parle de 20 ppm, hein, puisque la réglementation est faite autour de ça.
Ça peut se diagnostiquer dès la naissance ou c'est une maladie qui arrive au cours de la vie,
oui.
Les deux
oui.
D'accord,
c'est très variable.
Guillaume ?
Est-ce que avec toutes les applications qui sont en train de sortir aujourd'hui, qui donnent des notations, en tout cas beaucoup plus d'infos, plus disponibles, plus faciles, est-ce que vous trouvez que les gens arrivent à avancer sur, pas un diagnostic vraiment médical, mais en tout cas arrivent à identifier des choses qui sont plus ou moins bonnes pour eux et que le sujet remonte, ou est-ce que c'est pas spécialement quelque chose qui permet de...
Alors vous faites allusion aux applications.
Oui, à Yuka par exemple ou d'autres.
Voilà. Il y en a plusieurs. Je préférerais que vous qui la citiez que moi. Parce que je trouve que c'est dangereux pour.
Oui, vous le disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut, comme il y a beaucoup de sucre, on peut penser que c'est médiocre, alors que finalement, c'est bon par rapport à ce qu'on cherche.
C'est exactement ça. Et puis, une fois de plus, on a aujourd'hui des consommateurs malades, et on revient sur le diagnostic et le côté santé, qui se détournent parce que Yuka ne propose pas d'alternative. Quand on vient flaguer le produit et dire médiocre, bon, tous les biscuits sont par définition avec du sucre.
Julie, je voudrais qu'on revienne un peu sur votre cas, parce que je crois que vous avez fait une levée de fonds, c'est ça ?
On est en cours, oui.
Hein, c'est en cours. L'idée, c'est quoi justement d'associer les consommateurs et de faire en sorte qu'ils portent aussi votre projet avec vous ?
Oui, en fait, on a fait une première levée de fonds l'année dernière avec des corporates, justement, pour pouvoir lancer et recruter nos premiers salariés. Et là, cette année, on a été sollicité plusieurs fois par des consommateurs pour savoir comment ils pourraient nous aider et participer au projet. Donc, on a ouvert une campagne de financement. Donc, ils peuvent devenir actionnaires. On a déjà des premiers utilisateurs qui ont montré leur intention d'investir. Et c'est encore ouvert. Il y a encore une dizaine de jours pour participer.
Je voudrais qu'on termine, Elisabeth, en donnant quelques noms d'appli, parce que ça peut servir, évidemment.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous avez Qualito qui déchiffre la liste des ingrédients et des filtres pour vous permettre de reprendre le contrôle, hein, en disant qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je ne vais pas manger. Ou vous avez aussi...
Eat Possible, non ?
Oui, Eat Possible, qui vous permet, si vous êtes intolérant ou si vous avez un régime particulier, de trouver des restaurants adaptés.
Oui, c'est un écosystème qui est en train de se développer. Il serait temps effectivement qu'on s'y mette, même si on a des pionniers avec nous sur le plateau. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus aujourd'hui nous parler sans gluten sur Europe 1.
Il est 13h37.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Elle fabrique, elle, des desserts comme à la maison, Marie Morin. Et dans un instant, l'entreprise qui va bien, merci, j'en vois qui salive déjà.
La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités tous les jours entre 13h et 14h. Raphaël, on a faim, nos estomacs crient famine. Et heureusement, vous allez nous présenter l'entreprise qui va bien aujourd'hui.
Ah oui, et puis cette entreprise, Anissa et beaucoup d'autres ici, la prennent souvent en dessert à la cantine. La
absolument.
Fameuse mousse au chocolat de Marie Morin. Bonjour Bruno Morin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez vu quel accueil. Hein.
Merci.
Ce sont vos parents qui ont lancé Marie Morin, parce que Marie, c'est votre maman, c'est ça ?
Oui, tout à fait, oui.
À la base, on est en 1987. Ils ont une société de frais en Bretagne. Ils sont grossistes en produits laitiers. Et ils décident finalement de se convertir et de changer un peu leur fusil d'épaule. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ?
Tout simplement parce que les gens qu'on avait lancés à l'époque nous ont coupé un peu l'herbe sous le pied. Et donc, on s'est retrouvé en frontal avec d'autres grossistes, avec d'autres personnes qui vendaient les mêmes produits que nous. Et nous, on n'avait pas la force commerciale ni l'envie finalement de vendre les mêmes produits qu'on avait aidé à développer. Voilà, tout à fait.
Alors, 1992, ils prennent la décision. Marie Morin arrive en 1995, trois ans plus tard. Les recettes. Qui a élaboré les premières recettes ?
Alors les premières recettes, c'est simple, c'est les recettes de ma grand-mère. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est mon père qui les a mis en place. La première recette, c'était des flans, des choses toutes simples hein, qu'on en mettait. Hein,
fameux flans aux œufs.
Voilà, des flans aux œufs, des crèmes dessert, voilà. Et puis la mousse au chocolat est arrivée en 95, et puis c'est là que
c'est aussi celle de votre grand-mère.
Ouais, c'est la recette de ma grand-mère que mon père a mise au point. Ouais.
C'est d'ailleurs, je crois, 45% de vos ventes aujourd'hui,
45%
la mousse au chocolat. Le riz au lait, le financier orangé, ce sont pour nous tous finalement des madeleines de Proust.
Bah, ce sont des produits simples, hein, finalement. Ce sont des produits qui ont été, pour nous, galvaudés pendant des années. Donc, on a essayé de les remettre au goût du jour avec des produits, avec des matières nobles, puisque tous nos fournisseurs sont issus d'entreprises locales, pour la majeure partie des cas.
Vous travaillez au maximum en circuit court.
Tout à fait, tout à fait. Bah, pourquoi aller chercher la matière à 1000 km quand on a juste ce qu'il faut jusqu'à être chez nous ? Donc, le but, il est là.
Alors, vos parents peaufinent les recettes. Et puis, vous passez votre enfance, je crois, dans le camion avec votre père hein, pour faire les tournées. Parce qu'au départ, il faut s'imposer, il faut trouver des clients, il faut vendre les produits.
Ouais. Bah, moi, je n'ai pas été... j'étais pas un grand passionné par l'école et il y avait qu'une chose qui m'intéressait, c'était d'être avec mon père, de faire aller tourner avec lui.
Très tôt, à 19 ans, vous êtes dans le camion avec lui.
Ah, ou même à 14 ans, j'ai commencé. Ouais. Donc voilà, je faisais les nuits avec lui, puisqu'il faisait des nuits blanches pour aller chercher des produits à droite et à gauche. Donc ça, c'est des aventures qu'on n'oublie pas. Et donc voilà, mais moi, je suis rentré dans la boîte à 18 ans, donc de très bonne heure.
Que dit le coach ?
Dans une entreprise familiale, comment est-ce qu'on trouve sa place ? Parce que là, je lis sur le packaging que les trois enfants sont dans l'aventure. Est-ce que c'est le cas ? Comment est-ce qu'on arrive à définir les rôles ? Parce qu'au début, c'est une super histoire, on est passionné. On imagine bien, on vous imagine dans le camion avec votre papa, mais derrière, quand ça devient un métier, que vous y passez un certain nombre d'années, comment est-ce qu'on arrive à garder cette flamme et surtout à bien s'organiser, à savoir qui fait quoi, à se dire les choses qui parfois peuvent peut-être fâcher, j'imagine. Comment est-ce que ça structure, en fait ?
Alors, c'est simple. Alors, c'est simple, oui et non. Disons qu'on est trois frères. Donc, j'ai mon deuxième frère, David, lui, qui est parti au Canada, qui a mis en place aussi Marie-Morin au Canada. Donc, voilà, même si c'est deux unités ou deux entités qui sont complètement différentes et qui n'ont aucun lien.
Et puis Eric, c'est le pâtissier.
Et puis il y a Eric qui est arrivé, lui, juste derrière, qui lui est pâtissier et cuisine métier, et c'est lui qui a pris le relais de mon père pour la création des desserts.
Les nouveaux desserts.
Ah, les nouveaux desserts. Tout ce qui vient depuis la crème brûlée, c'est mon frère Eric qui a tout mis en place. Ouais.
Vous avez une recette à votre actif,
ouais,
c'est
j'ai
ça
l'honneur d'avoir c'est que déjà mon moelleux au chocolat. C'est, que moi,
c'est bien le moelleux au chocolat, on aime bien ça. Combien de personnes travaillent avec vous aujourd'hui ?
Actuellement, on a, avec les intérimaires compris, on doit être à peu près à 70 personnes.
Et la suite, c'est quoi ? De nouvelles gammes, de nouvelles recettes qui vont entrer ?
Ouais. Alors, on a plein de projets en tête. Déjà, des agrandissements au niveau de notre structure, puisqu'on est un peu à l'étroit dans le bâtiment où on est. Et puis derrière, des nouvelles recettes, des nouveaux produits. Parce que, comme dit mon père, c'est pas le tout de faire des investissements, mais il faut vendre des petits pots pour couvrir tout ça. Donc voilà. Donc, on a quelques recettes sous le coude.
L'envie de marcher aussi avec la saisonnalité des produits. Hein. Je crois que vous avez lancé un crumble aux fruits de saison récemment, la semaine dernière.
Oui, tout à fait. Et deux produits sont arrivé avec des valeurs aussi toutes simples, c'est-à-dire des fruits de saison qu'on va essayer de coller un petit peu au marché, enfin pas la tendance, mais du moins aux périodes des fruits et des fruits. Donc on vient de lancer un crumble aux fruits rouges avec une base de groseille qui est excellente, et puis une tartelette aux fraises. Donc,
et voilà. Puis il y a du bio dans vos produits rayon maintenant.
Ouais, on a une petite gamme de produits bio, mais pour l'intégralité de nos produits, le lait qui rentre dans la composition de nos produits est issu d'une ferme locale et qu'on a aidé à convertir en lait biologique.
Vous avez aussi l'idée de relancer les produits qui ont fait votre histoire, hein, finalement. Les premiers, les petits flans, les œufs au lait, les flans coco. Il faut les revisiter, c'est important.
Bah, c'est les remettre un peu au goût du jour, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de produits qui ont été galvaudés pendant des années. Je pense à mon liégeois au chocolat, par exemple. Avant, on mettait tout simplement de l'eau, du cacao et puis un peu d'amidon, et puis on avait une sorte de mousse blanche dessus et ça donnait un produit qui était simple et pas cher, et surtout pas cher. Là, maintenant, on arrive à une belle crème au chocolat avec une vraie chantilly.
Avec du mascarpone.
Crème fraîche, mascarpone, crème fraîche. Donc voilà, on a vraiment un produit gourmand et le vrai produit.
Voilà. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez les voir. Hein. Ils sont avec nous dans le studio d'Europe 1, sur europe1.fr, ces produits Marie-Morin. Vous faites l'essentiel de votre chiffre, 80% je crois en grande surface.
Oui, tout à fait.
Pour quelle raison ? C'est une volonté de choisir la grande surface
ou... Non, c'est historique. Hein. On a commencé avec les petits crémiers spécialisés au démarrage, hein, forcément. Et puis, on s'est vite aperçu que ce marché-là était vraiment en perte de vitesse. Donc, on a décidé de s'orienter vers la grande distribution. Et c'est un marché qui nous fait du bien, forcément.
Combien de produits aujourd'hui dans votre gamme ?
On a une vingtaine de références au niveau de l'assortiment.
Et la suite, ce sera quoi la suite à long terme ? Rester dans la famille Morin, je suppose ?
Ah oui, c'est l'envie. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres envies que celle-là. Oui.
Voilà. Guillaume ?
La Bretagne, c'est un pays d'aventuriers, de conquérants. Est-ce que vous sentez ce côté entrepreneurial ? Est-ce que vous êtes soudé avec d'autres entrepreneurs dans votre région ? Il y a ce mythe un peu de dire que les Bretons sont des grands aventuriers, surtout des grandes aventures de business. Est-ce que vous sentez ça ?
Alors déjà, on a un gros partenariat avec tous nos fournisseurs. Hein, donc, enfin, je dis fournisseurs aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est des fournisseurs, mais moi j'appelle plutôt ça des partenaires. Et puis, on fait partie de l'association Produits en Bretagne. Forcément, on a le mythe et la culture de la Bretagne, donc forcément, c'est dans nos gènes. Donc voilà, la Bretagne, c'est une belle région qui mérite d'être connue et reconnue au travers de ses produits, mais aussi au niveau de ses entreprises.
Et vous le faites très bien. Marie Morin, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venue nous
Merci
en parler aujourd'hui sur
Merci
Europe 1.
Il est 13h48.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Laissez les ados gérer leur argent de poche tout en gardant un œil dessus. C'est la solution et c'est Pixpay. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec vous, Raphaël Duchemin, avec vos invités. Alors, tous les jours, juste avant 14h, vous nous proposez la solution. Aujourd'hui, elle va faire plaisir aux enfants et à leurs parents.
Ah oui, vous avez peut-être des ados et vous voulez garder un œil sur leurs dépenses. La solution aujourd'hui, Elisabeth, c'est Pixpay, une toute jeune start-up.
Ah oui, très jeune. Hein, ça a été créé il y a tout juste 4 mois. Lancement officiel en septembre, 3 cofondateurs. L'idée, c'est un compte mobile pour les 10-18 ans avec une appli très simple à utiliser qui non seulement permet de gérer l'argent de poche des ados parce qu'il y a des fonctionnalités que l'on connaît assez classiques comme la consultation du solde en temps réel, des notifications pour chaque transaction, des outils de suivi de budget, mais c'est très très bien aussi. Il y a une vertu pédagogique puisque ça apprend aux ados, ça les aide à apprendre à gérer un budget, des ados qui ne connaissent pas toujours la valeur de l'argent. Et ce qu'il y a d'original, c'est que cette application est destinée aux adolescents, mais aussi aux parents, pour distribuer l'argent de poche, mais aussi pour contrôler les paiements, par exemple chez un marchand particulier. Si on ne souhaite pas que l'ado achète quelque chose chez un marchand en ligne, et bien là, on peut bloquer tout à fait, on peut bloquer l'achat. Donc c'est très très pratique et nous sommes justement avec la cofondatrice de Pixpay. Bonjour Caroline Ménager.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Comment vous est venue cette idée de cette nouvelle forme de banque dédiée aux adolescents? Parce que c'est une néobanque finalement.
C'est un peu une néobanque. Et cette idée en fait, elle nous est venue assez simplement. En fait, on se rend compte aujourd'hui que les adolescents ont pas mal d'argent, que ce soit l'argent de poche qu'ils ont régulièrement par leurs parents, que ce soit les petits boulots qu'ils font à droite à gauche, ou l'argent qu'ils ont pour Noël, pour leurs anniversaires. Et en fait, aujourd'hui, dans 9 cas sur 10, ces adolescents ont leur argent en cash et n'ont pas de moyens modernes de paiement pour pouvoir dépenser leur argent. Et pourquoi ? Parce que nous, notre sentiment, c'est que les banques traditionnelles et les banques en ligne ont délaissé ce marché, n'ont pas adressé de manière dédiée en répondant vraiment aux usages et aux besoins des adolescents. Et en fait, nous, déjà, on est tous les trois parents, donc on est forcément très sensibilisés à cette problématique. On avait vraiment envie d'apporter une solution qui puisse simplifier le quotidien des familles.
Donc cette solution, vous venez de la mettre en place.
Tout à fait.
Elle sera accessible, on peut déjà se préinscrire, elle sera accessible au mois de septembre. Concrètement, qu'est-ce qu'elle a de plus par rapport à justement si je décide de verser de l'argent de poche à mon adolescent dans une banque traditionnelle, qu'est-ce qu'elle a en plus ?
Alors, elle a déjà c'est une carte de paiement. Donc, c'est une carte de paiement qui est valable partout dans le monde avec toutes les fonctionnalités modernes d'une carte de paiement, que ce soit le sans contact, Apple Pay, Google Pay. Donc, c'est une vraie carte Mastercard. Ça, c'est assez classique. En revanche, on ne peut pas être débiteur sur ce compte et c'est normal parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, dans cette envie d'apprendre à un enfant à gérer un budget, on ne veut pas qu'il puisse dépenser plus qu'il n'a. Ça, c'est la première chose. Et en fait, on a également deux autres choses très importantes. C'est une application pour l'adolescent et une application pour son parent.
En miroir.
En miroir, exactement.
Comment vous avez fait pour créer cette carte ? Qui vous a aidé à la mettre en place ?
Alors, on n'est pas associé à une banque en particulier. Donc, c'est une offre qui est compatible avec l'ensemble des banques de la place. En revanche, on a un partenaire qui nous fournit l'ensemble des services pour produire ces services bancaires.
Est-ce qu'elle a un coût ?
La carte ?
Ouais.
Oui, alors elle a un coût de 2,99 euros par
payé
mois.
Payé par les parents, évidemment.
Payé par les parents.
Bien sûr, sinon c'est pas drôle.
Et voilà, on a vraiment envie d'avoir un produit qui soit simple, qui soit transparent. Donc c'est 2,99 euros par mois et c'est sans surprise.
Guillaume ?
C'est un marché qui bouge beaucoup avec beaucoup de start-up, les Pumpkin, les Lydia. Est-ce que vous imaginez des partenariats avec eux, des applications qui permettent de se faire des paiements entre personnes ? Est-ce qu'il y aura des fonctionnalités pour pouvoir se rembourser le petit yaourt qu'on aura acheté pour l'autre à la cantine ?
C'est une très bonne question. Effectivement, l'application pour les enfants, elle permet, évidemment, de pouvoir payer, mais elle permet plein d'autres choses. Elle permet d'être payé quand on fait un petit boulot. Elle permet de faire du remboursement entre amis et c'est justement un petit peu une des fonctionnalités qui s'inspire d'un Lydia ou d'un Pumpkin, mais ça permet de faire énormément de choses au-delà de cette fonctionnalité.
Elle permet aussi de mettre en place des cagnottes. Hein. Si par exemple, il y en a un qui a envie de s'offrir un skate...
Enfin, il peut dire, voilà, les copains, venez m'aider à payer, à payer mon skate. Et... Ouais.
En fait, on a interrogé beaucoup d'enfants et un des principaux points de difficulté pour eux, c'est d'épargner.
Et non, mais vraiment, les enfants,
ça reste après ça. Hein.
C'est vrai. Et quand on leur propose de pouvoir mettre de l'argent de côté qu'ils ne peuvent pas dépenser pour un achat en particulier, c'est vraiment, je pense, une des fonctionnalités qui les séduit le plus. Donc, exactement, ça leur permettra d'économiser facilement et justement d'inviter papy, mamie, les parents, appel bonne volonté, pour abonder sur leur cagnotte.
Il y a des agios ou pas alors
Il n'y a pas d'agios parce qu'on ne peut pas être débiteur. Donc, c'est vraiment.
Il
n'y
a pas de
débiteur.
On devrait y aller, Raphaël aussi.
Oh,
hein.
Oui, moi je voudrais bien redevenir adolescente.
Mais je pourrais vous passer une carte.
Bon. Ça s'appelle PixPay, c'est la solution qui arrive très bientôt à partir du mois de septembre. Merci d'être venu nous
Avec
en parler
plaisir.
Aujourd'hui sur Europe 1. Merci à Guillaume Gibault qui était notre coach fidèle au poste, le fondateur du slip français. Elisabeth, on se retrouve demain. On va parler des innovations techniques françaises évidemment, puisque vous le savez, Vivatech démarre et vous y serez, je crois, Guillaume. Vendredi et samedi, les deux jours. À demain.